Alors, je suis bien sûr heureux de vous retrouver, heureux de retrouver tous ceux qui nous ont rejoints depuis la rentrée. Donc, pardonnez-moi, homme de peu de foi, j'ai pas suffisamment prévu de feuilles. Donc, j'en les ferai pour la prochaine fois. Voilà, il y en aura un paquet de 40. J'espère que ça ira. Et même un peu plus, comme ça, vous pourrez récupérer pour ceux qui n'ont pas eu. Si certains voudraient des feuilles parce qu'ils ont manqué la fois précédente, vous venez me voir à la fin. En fait, et ce qu'il faudrait aussi, ce serait, c'est une demande de notre ami Guillaume Tabar, qui organise ces soirées, il voudrait avoir la liste des adresses mail. Donc, si je vais faire passer ce petit papier, et vous mettez votre nom. Si vous ne l'avez pas fait la dernière fois, merci de le faire aujourd'hui. Alors chaque année, il y en a qui disent « mais je l'ai fait l'an passé, on repart à zéro, on repart à neuf ». Voilà, merci, vous mettez votre nom et votre adresse mail.
Si vous voulez, j'ai voilà. Ça
vous... Ah, c'est gentil, peut-être que ce sera mieux, en effet, une feuille avec... bravo. Voilà. Voilà. Et donc, nous allons maintenant commencer. Donc évidemment, cette histoire des patriarches nous passionne parce que c'est l'histoire sainte, dont Jésus est l'aboutissement. Pour comprendre Jésus, vous savez, vous connaissez la phrase de saint Ambroise, le grand évêque, non, saint Jérôme, pardon, Jérôme, le prêtre romain qui est allé se réfugier à Bethléem dans la petite grotte et qui a étudié les Écritures et qui a traduit toute la Bible. En s'aidant du texte hébreu, et il disait « ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Et ça se vérifie particulièrement avec Abraham. Hein, j'aime bien rappeler que quand Jésus arrive dans le monde, quand il, au moment de l'incarnation, Marie, la première chose à laquelle elle pense, c'est Abraham. Elle dit « le Seigneur se souvient de la promesse faite à Abraham ». Donc, ce qui se passe dans le sein de Marie, c'est l'aboutissement d'une histoire qui commence avec Abraham. Vous allez voir, Abraham, on l'a déjà vu la dernière fois, c'est vraiment la grande figure de l'Ancien Testament. Vous me direz, il y a aussi Moïse. Les deux sont là vraiment avec l'autre. Mais on a quand même quelqu'un qui a beaucoup à nous apprendre. Et alors, la première raison, évidemment, c'est l'histoire sainte, c'est l'histoire qui conduit à Jésus, mais c'est aussi notre propre histoire. Et c'est pour ça qu'on aime bien lire l'histoire des patriarches. C'est étonnant, vous l'avez vu déjà dans les premiers chapitres de la Genèse, quand on lit les récits, on se dit, mais bon sang, mais je connais exactement ce qui est raconté dans la Bible, bien sûr, parce que la Bible raconte ce qui se passe dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations, dans nos pays. On ne trouve pas de paroles plus profondes et plus justes sur l'humanité, sur l'histoire humaine, que dans la Bible. Voilà. Donc, heureux sommes-nous de lire les Écritures. Et je vous rappelle que si nous arrivons ici, c'est après avoir fait la lecture des chapitres. Je vous l'avais dit la dernière fois, aujourd'hui, c'est chapitre 13 à 17. Et je peux vous dire déjà, pour la prochaine fois, c'est 18 et 19. Voilà. Avant de commencer, est-ce que de la dernière fois, il y avait des questions ? Il n'y en a pas. C'est très bien. Ah, il est formidable.
Tu peux l'en faire d'autres parties.
Voilà. Mais s'il y en a qui ont besoin de feuilles, est-ce qu'il y en a qui ont besoin ? Voilà, on va passer. Il y en a ici aussi. Alors, vous levez les doigts parce que...
Tu peux en faire encore d'autres. Hein. Dis-moi combien ?
1, 2, 3. Voilà. Voilà. Donc, nous nous souvenons que Dieu, en appelant Abraham, lui donnait une destination, et on s'est rendu compte que la destination que Dieu donne à Abraham, ce n'est pas tant un pays qu'une alliance avec lui. Hein. Par là où je t'indiquerai, le Seigneur se garde bien de lui dire dans quel pays. En fait, la réponse, ça va être d'être avec le Seigneur. Vous vous souvenez de l'histoire des fables de La Fontaine. Hein, le papa qui dit à ses trois fils, il y a un trésor caché dans le champ, mais il ne dit pas lequel. Alors les fils labourent le champ, puis à la fin, ils ont une récolte de blé absolument hallucinante. Et bien, le trésor, c'était quoi ? C'était de travailler et d'obtenir par leur travail le plus beau fruit. Hein. Et bien, de la même manière, quand le Seigneur dit à Abraham, pars là où je t'indiquerai, hein, le pays que le Seigneur propose à Abraham, eh bien, c'est de vivre dans l'amitié avec lui. Donc, on retrouvera ça dans le Nouveau Testament. Abraham parti sans savoir où il allait, mais il visait finalement la cité sainte. Et c'est là que Dieu voulait le conduire. Donc, le but de l'appel, le but de l'appel au chapitre 12, c'est l'alliance. Eh bien, les chapitres 13 à 17 nous donnent des étapes qui conduisent vers cette alliance. Tout d'abord, nous regarderons assez rapidement l'histoire d'Abraham et Lot. J'ai mis comme titre les dispositions d'Abraham le béni. Je rappelle que c'est Abraham, c'est pas encore Abraham. Vous verrez, aujourd'hui, nous verrons apparaître le nom Abraham, mais pour l'instant, vous l'ignorez, c'est Abraham. Voilà. Ensuite, nous verrons l'alliance faite avec Abraham au chapitre 15, puis un épisode un peu étonnant au chapitre 16 sur la naissance d'Ismaël, et enfin le chapitre 17 qui va être une sorte de redémarrage du récit, un chapitre central avec ce qu'on peut appeler une alliance féconde. Tout d'abord, les dispositions d'Abraham le béni. On connaît tous l'histoire d'Abraham qui part, qui quitte son pays. Alors je vous rappelle que Abraham est parti à l'origine, c'était Ur, en Chaldée. Il est parti avec son père. Je vous avais montré comment finalement toute l'histoire de la famille était une histoire marquée par la mort. Une famille qui était fermée sur elle-même, qui ne produisait plus rien. Et la famille d'Abraham, j'ai mal sur les mots, ils arrivent dans ce pays et la mort fait son œuvre. Il y a comme une sorte d'impasse. C'est dans cette situation d'impasse que le Seigneur va appeler Abraham et il va, en obéissant au Seigneur, il se retrouve dans ce pays. Et l'obéissance, le pays de Canaan, et l'obéissance, j'allais dire, est payante, si on peut dire, puisque il va s'enrichir, il va avoir des troupeaux, et les affaires vont bien fonctionner. Il se retrouve avec Lot, son neveu, donc les deux, finalement, survivants, on peut dire, de cette histoire, et ayant l'un et l'autre beaucoup de richesses, eh bien, ils se rendent compte qu'ils ont du mal à tenir dans le même espace. Eh bien, il va falloir qu'ils s'organisent, et ils décident de se séparer, et ils se répartissent le territoire pour que pâturent leurs troupeaux. Sinon, il commence à y avoir des frictions entre leurs bergers. C'est raconté dans la Genèse très très bien. Et donc, c'est une répartition à l'amiable, même un peu plus qu'à l'amiable, en famille. Ça peut bien se passer, les partages en famille, et des fois ça peut très bien se passer. Ça existe. Et là, on va voir que ça se passe bien. Donc, tout n'est pas noir, tout n'est pas sombre. Donc, tant mieux. Alors, comment ça se passe ? Alors, c'est là que vous allez dire, tiens, là, ça me rappelle des choses. Il y a Abraham d'un côté et Lot de l'autre. Lot, c'est le neveu, c'est le plus jeune, mais c'est le premier qui se sert. Voilà, il dit, moi, voilà ce qui m'intéresse. Vous savez, vous avez les meubles comme ça, ils disent, moi, c'est celui-là, c'est celui-là. Voilà, alors là, c'est pas des meubles. Les meubles, à l'époque, c'est des grands territoires avec des... Voilà, alors les troupeaux, c'est eux qui les ont, mais ensuite, ça va être, est-ce qu'il y a des villes, est-ce qu'il y a des vallées, est-ce qu'il y a des pâturages. Et ils regardent, et Lot... Eh bien, choisit pour lui, comme dit le livre de la Genèse, le pays le meilleur. C'est décrit vraiment comme le pays le meilleur. Et cette attitude de convoitise est assez caractéristique. Lot, c'est une figure intéressante parce que il n'est pas tout gentil ou tout mauvais. Nous, on est beaucoup dans le tout gentil ou tout mauvais. Dans la Bible, les choses sont plus nuancées. Il y a du gentil et du mauvais qui se mélangent. Et Lot, il est un petit peu avec nos ambiguïtés. Il suit Abraham, il est proche d'Abraham, et il continuera de jouer un rôle assez positif, mais il n'arrive pas à se défaire de cette mauvaise habitude familiale, qui est celle d'être centré sur soi, de penser à soi, et on peut dire que toute l'histoire dans laquelle nous sommes entrés avec Abraham, il s'agit de sortir de soi. Abraham est sorti de son pays. Lot, lui, il veut prendre pour lui. On voit bien comment, d'un point de vue symbolique, le texte fonctionne. On retrouvera cette attitude de convoitise à Sodome, qui est une ville, justement, du territoire choisi par Lot. Sodome fait partie du territoire que Lot va choisir. Il sera question plus tard de la convoitise des sodomites, mais déjà, on nous annonce que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant le Seigneur. Voilà. Abraham laisse Lot, il ne cherche pas à se disputer, à dire t'as pris la plus belle part, voilà, il a laissé librement le choix se faire et il l'assume. Vous savez, quelquefois on laisse librement les choses se faire et puis après on revient sur la liberté. On dit, ah oui, mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il y a un choix à faire. Abraham a proposé, Lot a fait, maintenant il accepte. Et là, le récit va changer de ton. Ce n'est plus Abraham qui va dire « voilà ce que je veux », du reste il n'a plus tellement le choix, mais c'est le Seigneur qui lui donne. C'est le Seigneur qui lui donne. « Lève les yeux et regarde, depuis le lieu où tu es. » ça reviendra souvent dans l'Ancien Testament, dans la Bible, « lève les yeux hein, ». On verra Jésus lui-même dire à la Samaritaine « lève les yeux hein, et regarde les champs à moissonner hein. ». Il y a toujours comme une espérance, et puis le Seigneur lui-même qui demande à Abraham de lever les yeux vers le ciel, on le verra tout à l'heure. Donc il y a quelque chose qui s'élargit avec Abraham. Je vous avais dit, vous vous souvenez, dans l'an passé, puis la première rencontre, il y a une sorte de rétrécissement de l'histoire autour de la famille de Terah, puis d'Abraham, et à partir d'Abraham, on va de nouveau avoir une sorte d'ouverture et d'élargissement. Eh bien le Seigneur va dilater, va ouvrir le cœur et le regard d'Abraham. Lève les yeux et regarde depuis le lieu où tu es. Tout le pays que tu vois, toi et à ta descendance, je le donnerai pour toujours. Voilà. Donc on voit ces deux figures, Lot qui prend, Abraham qui reçoit. Ça c'est une thématique biblique tout à fait centrale. Prendre ou recevoir. Et c'est basique, là c'est notre condition humaine et spirituellement, on voit ce que ça peut entraîner pendant le temps de l'Avent pour les petits-enfants, leur montrer, quand je vais à l'école Sainte-Anne et que j'essaye de leur montrer ce qui se passe à Noël, je leur dis il s'agit d'accueillir le Christ comme le don de Dieu et apprendre à ne pas vouloir tout posséder. Alors on fait des petits sketchs avec la manière de recevoir les cadeaux et ils comprennent très bien. Il y a celui qui reçoit le cadeau qui ne le regarde pas et qui part parce qu'il est déjà tellement gâté qu'il fait attention à rien. Il y a celui qui prend. Il oublie de regarder la personne qui donne, alors il est capté là. Puis à la fin, il y a celui qui reçoit. Et donc recevoir, c'est-à-dire je regarde celui qui me donne et je vois le prix de ce que j'ai reçu. Voilà. Ils comprennent très bien. Dans la Bible, c'est ça. On apprend à recevoir. Et ce serait important d'un point de vue théologique. Le Christ lui-même, on est tellement habitué comme chrétien que nous, je dirais, soit on est un peu blasé, soit on le prend en disant « ça va, le Christ, on connaît ». Voilà. Il s'agit d'entrer dans les dispositions dans lesquelles on reçoit le Christ comme un cadeau inouï. Vous voyez spirituellement ce que cela peut entraîner. Voilà. Voilà, Lot qui reste enfermé, lui, dans cette espèce d'habitude de tout ramener à soi. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, Abraham a véritablement un souci de garder cette paix. C'est vrai que les divisions sont là, dans le cœur de l'homme, depuis Adam, elles sont un peu inéluctables, et pourtant... il est possible de choisir un autre chemin, Abraham le montre, il veut maintenir la concorde fraternelle, nous sommes frères. En réalité, ils ne sont pas frères. On pourrait dire, si Lot était cousin d'Abraham, le terme de frère, on le trouve aussi pour dire les cousins, on l'aura dans l'Évangile, quand on parle des frères de Jésus, c'est sa parenté. Mais quand c'est des neveux, Abraham aurait pu dire, attends, je suis ton oncle. Parmi vous, ceux qui sont oncles ou tantes, ça veut dire « je suis ton oncle, je suis ta tante ». Voilà. Eh bien, Abraham, la première chose qu'il voit, c'est la fraternité. Nous sommes frères. On le verra d'ailleurs un peu plus loin, au chapitre suivant, quand Kedor Laomer, un personnage un peu mystérieux, va emmener Lot en captivité, le neveu d'Abraham, eh bien, Abraham dira « Je suis à la recherche de mon frère. » Je suis à la recherche de mon frère. Nos Bibles traduisent « parents », mais ne voient pas la pointe, justement. Je crois qu'il faut traduire le terme « ar » qui veut dire « frère ». « Je viens chercher mon frère. » Donc pour Abraham, le lien avec Lot, c'est celui de la fraternité. On sait que c'est le grand enjeu de l'histoire des patriarches, depuis le péché d'Adam et Ève, depuis Caïn et Abel, cette jalousie qui nous ronge, qui fait que chacun ne pense qu'à lui-même et qui rend la fraternité impossible, eh bien avec Abraham, cette fraternité va être progressivement rétablie. Voilà, alors on voit Abraham qui est dans ces dispositions qui le rendent disponible à la promesse de Dieu, même s'il y a encore un long chemin à parcourir. On n'aura pas le temps de regarder tout dans le détail, malheureusement, mais on voit comment, pour Abraham, il y a un cheminement spirituel tout à fait impressionnant auquel il va se prêter, hein, de bon cœur, on peut dire. Voilà. On le verra un peu plus loin, hein, quand le roi de Sodome lui propose un remerciement après son intervention militaire à propos de l'histoire de Kedor Laomer, hein, cette phrase d'Abraham, « Je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Hein. » Voilà, il a rendu service et c'est tout ce qui comptait pour lui. Voilà, le dernier point, hein, pour bien comprendre ces dispositions d'Abraham, hein, eh bien, c'est de se souvenir de cette question de la bénédiction. Abraham était l'objet d'une bénédiction et on se souvient que le but, c'était qu'il transmette cette bénédiction à toutes les nations de la terre. Et c'est intéressant qu'il aille voir un roi païen, Melchisédek, qui est à la fois le roi de Salem et puis prêtre du Dieu très haut. Hein, et le prêtre va bénir, hein, le Seigneur du ciel, en sachant que c'est de lui que vient toute bénédiction, mais aussi il reconnaît l'élection dont Abraham est l'objet. Il fait reposer cette bénédiction sur Abraham. Eh bien, c'est exactement ce qui avait été annoncé par Dieu. En te bénissant toi, c'est-à-dire en reconnaissant en toi le choix de Dieu, les nations seront bénies. En reconnaissant qu'Abraham a été choisi par Dieu, je reconnais la trace de Dieu, je reconnais le chemin que Dieu veut nous donner pour le salut. Je vous avais dit la dernière fois, cette question, c'est tout l'enjeu de notre relation à Israël. Reconnaître que Israël a été appelé, que le peuple juif est là parce que Dieu l'a appelé. Et donc, ce n'est pas moi qui définis les choses en disant comment elles doivent se passer, mais je reconnais que Israël a laissé sa trace, Dieu a laissé sa trace en mettant un peuple à part. Hein, l'élection d'Abraham, l'élection d'Israël, c'est un chemin que le Seigneur nous donne pour que nous puissions accueillir à notre tour le don de Dieu. Alors, il y a tout un thème de réflexion que je ne peux pas développer ici, malheureusement, mais c'est très intéressant que Abraham, qui vient d'un pays païen, qui est un païen. Il faut bien se souvenir qu'Abraham, c'est un païen pour l'instant. C'est un païen, c'est-à-dire l'humanité à son état premier. Sans le Christ, on est tous des païens. C'est-à-dire on est livré à notre religiosité immédiate. Abraham honore les divinités de son pays. Il a quitté son pays. Ça veut dire aussi avec ses divinités. S'il arrive auprès de Melchisédek, le roi de Salem, donc c'est un roi païen, on va dire, ça veut dire qu'il adopte le dieu des Cananéens. Hein, il passe d'une divinité à l'autre. Alors précisément non, parce que la figure de Melchisédek est présentée dans la Bible comme un roi qui semble, survoler ses particularismes. Hein. Il est prêtre du Dieu très haut. Et on a l'impression à ce moment-là que l'auteur biblique se réfère à Dieu qui n'est pas limité justement à une tribu, à un peuple, à une nation païenne. Ça montre bien que le chemin que va suivre Abraham, ce ne sera pas un chemin particulier, le dieu d'un clan, même si on en aura l'impression à certains moments, parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a une appartenance mutuelle entre Dieu et le clan d'Abraham, mais il s'adresse bien au Dieu qui est le même pour les païens, pour tout le monde, le Dieu unique. Voilà. Bon, je ne m'appesantis pas plus dessus, mais c'est un sujet sûrement qu'il faudrait approfondir. Alors, le premier moment, vraiment important, hein, après ces récits qui nous disposent d'une certaine manière à l'Alliance, eh bien, c'est cette première étape de l'Alliance, hein, on peut appeler une Alliance indéfectible. Une nouvelle fois, on voit Dieu intervenir auprès d'Abraham et lui promettre une descendance. Ça avait déjà été le cas au chapitre 12. Le Seigneur avait déjà fait une promesse. Eh bien, il va la renouveler. Mais évidemment, Abraham sait que lui et sa femme sont stériles. Alors, il se pose la question, qu'est-ce qu'on peut espérer quand on reçoit une promesse magnifique, mais on vous fait la promesse de devenir, champion aux 400 mètres, je suis sur une chaise roulante. Alors, c'est bien, on dit d'être champion aux 400 mètres, mais c'est bien gentil de faire une promesse, c'est un peu douloureux, hein, l'impression que le Seigneur va appuyer là où ça fait mal. Dire tu es le père d'une nombreuse descendance, Abraham ne l'a pas dit dès le départ, mais il est âgé, sa femme est stérile, donc on va voir dans tout le récit à quel point ce texte est très humain. C'est-à-dire qu'on voit la souffrance de Sarah et d'Abraham, peut-être davantage de Sarah, ce qu'on peut comprendre d'une mère, enfin d'une femme qui n'a pas encore eu d'enfant, on va le voir juste après. Donc qu'est-ce que le Seigneur va faire pour réaliser cette promesse? Donc voyez combien ça touche une question très très profonde. Le Seigneur va progressivement aider Abraham à avancer sur le chemin de la foi. Tout d'abord, le Seigneur mène Abraham dehors. Il le mena dehors, il le conduisit dehors. Donc Abraham est sous la tente, on devine qu'il fait nuit, on va le deviner. Sortir de la tente, évidemment on se souvient du moment où le Seigneur l'a fait sortir de son pays. Et ça, c'est un thème aussi qui est central dans la spiritualité d'Abraham. Je parle de la spiritualité d'Abraham, parce qu'il s'agit réellement d'une question de relation à Dieu. Sortir de soi-même, sortir de son pays, c'est peut-être l'aspect le plus caractéristique de l'histoire d'Abraham. Sortir de soi-même, sortir de sa tente, sortir de l'habitacle que nous nous sommes donné pour que le Seigneur élargisse notre regard. Et le Seigneur élargit son regard, comme on l'avait déjà vu avant, lève les yeux vers le ciel. Alors ça c'est très très beau, lève les yeux vers le ciel. Pourquoi lever les yeux vers le ciel? Alors la Bible, l'intérêt du langage de la Bible, c'est qu'on n'est pas dans un langage descriptif en disant voilà, c'est parce que en regardant le ciel, et ben voilà ce qui va se passer et voilà ce qu'il faut comprendre. Il y a un langage poétique, mais pourquoi? Parce que il s'agit pour nous de comprendre que l'expérience humaine doit être comme débordée. Seul le ciel étoilé est capable de dire l'ampleur de la promesse de Dieu. Seul le ciel étoilé est capable de dire l'ampleur de la promesse de Dieu. C'est intéressant que quand on parle du ciel, quand on parle de Dieu, on parle du ciel, notre Père qui est aux cieux, l'image du ciel. Alors évidemment, on se présente tous Dieu qui... Ah oui, c'est parce que c'est au-dessus. Seul le ciel étoilé est capable de dire l'ampleur de la promesse de Dieu. L'image du ciel, alors évidemment, on se représente facilement un bon Dieu sur son nuage avec sa barbe blanche. Alors on dit, mais on se souvient de la remarque de... C'était Gagarine, qui est la première fois qu'il est allé dans la fusée, il est redescendu, il a dit je suis monté au ciel et je n'y ai pas vu Dieu. Donc c'était l'athéisme officiel, c'était très bien. Ça ne faisait que confirmer l'athéisme qui était enseigné en URSS. Voilà, c'est à quoi le père Delfieux, le père Olivier Clément disait, il n'est peut-être pas monté suffisamment haut. Voilà, c'est assez juste, il n'est pas monté suffisamment haut. Et c'est vrai. Mais les cieux, pourquoi les cieux? Parce que les cieux, ils nous englobent. Parce que les cieux, on ne peut pas les saisir. On ne peut pas les ramener à soi. C'est une image de Dieu. Le ciel étoilé. Et les étoiles, la multiplicité des étoiles. Celui qui a créé la multiplicité des étoiles, sera capable de donner à Abraham une multitude de descendants. Donc je crois que voilà, l'image parle d'elle-même. Regarde le nombre d'étoiles. Alors nous savons aujourd'hui qu'il y a des milliards, des centaines de milliards d'étoiles, et c'est tout à fait impressionnant là, les vues de Webb. Là, je ne sais pas si vous avez regardé des photos. Vous voyez une photo comme ça avec plein d'étoiles. Puis après, il vous montre la photo suivante. Et on voit que c'est un petit timbre-poste dans un truc immense. En disant ça, c'est multiplié par des milliers de fois. Alors on se dit, mais c'est pour l'esprit humain, c'est pas possible. Donc quand Dieu fait sortir Abraham de sa tente et lui montre les étoiles, il y a quelque chose d'assez fascinant. Alors attention, c'est une expérience qui reste matérielle, mais c'est une expérience aussi qui fait appel à l'idée de la beauté, de l'émerveillement. Il s'agit pour l'homme de comprendre que la promesse de Dieu dépasse ce que le cœur de l'homme est capable de concevoir. Dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. Hein, c'est assez amusant que le Seigneur dise ça. Dénombre si tu peux les dénombrer. Bien sûr, Abraham, il dit, mais je peux pas. Hein. Mais justement, il y a ce débordement qui fait aussi partie du langage biblique. Hein. Voilà. Et on voit, comme on l'avait vu déjà dans le langage, dans le récit de la création, au chapitre 1, et puis encore après le déluge, la contemplation du monde créé n'est pas un divertissement esthétique. Hein. La révélation, la contemplation du monde créé révèle à l'homme quelque chose de l'agir de Dieu, hein, et même de son être. Hein. Ça ne veut pas dire un langage purement allusif, incertain, qui permet de tout dire. Non, il y a quelque chose de vrai, de sûr, mais il faut plus le prendre comme un chemin de conversion, un chemin de vie spirituelle dans lequel le cœur de l'homme va se rendre accessible, va se rendre ouvert à une réalité plus haute, plus grande, qui vient de Dieu. En réponse, Abraham crut dans le Seigneur qui le lui compta comme justice. Abraham crut dans le Seigneur qui le lui compta comme justice. Cette réponse d'Abraham, évidemment, rappelle le chapitre 12, hein, quand le Seigneur lui demande de partir et il part. Hein, cette fois-ci, il est dit de façon explicite, il croit, hein, avec le verbe « aman ». Ça vous dit quelque chose, hein, quand on va à la messe, on dit « amen ». Hein, ça veut dire que c'est solide. Hein. Aman, c'est une racine qui est la racine hébraïque. Le mot hébraïque, c'est un piquet qu'on plante en terre. Quand vous plantez un piquet en terre et qu'il n'y a que ça qui sort, vous essayez de faire bouger, bon courage. Hein. La foi, c'est aussi solide que ça. Hein. Eh bien, Abraham croit. Hein. Dans le premier cas, au chapitre 12, Abraham prenait un risque. Il ne savait pas où il allait. Hein. Ici, il y a de nouveau une expérience extrêmement forte que fait Abraham. Hein, il surmonte un obstacle infranchissable, hein, qui est la stérilité du couple. Hein, tout à l'heure, je donnais l'exemple de quelqu'un qui ne peut pas courir, à qui on fait une promesse de course. Hein, eh bien, le Seigneur dit à Abraham quelque chose qui est inconcevable au plan humain. Et petit à petit, il va préparer Abraham et Sarah pour que cela se réalise. Hein. Il s'agit donc bien de comprendre que pour Abraham, la foi va tenir dans ce départ de soi-même, hein, sortir de soi-même, sortir de sa tente, aller là où Dieu le demande et faire confiance. Hein. Donc la foi n'est pas une croyance. Hein, je crois que, c'est qu'on dit la foi, ben je crois que Dieu existe, mais ça reste très abstrait. Hein, je pourrais croire qu'en fait il n'existe pas. Non, la foi c'est un engagement, hein, une confiance totale, hein, en Dieu qui ouvre un avenir. Hein, qui accomplit ce qu'il dit. Hein, tu vois les étoiles, eh bien, cette immensité, je vais t'y conduire. Hein, aussi sûrement que je t'ai fait partir de ton pays, tu t'es retrouvé dans ce pays de Canaan, et tes troupeaux ont grandi, tu as fait déjà goûter quelque chose de cette bénédiction, eh bien, je te conduirai bien plus loin encore. Et là, le Seigneur va confirmer sa promesse sous la forme d'une conclusion d'alliance. Alors il y a ce rite étonnant, hein, le Seigneur demande à Abraham de prendre des animaux, les couper en deux, les mettre de deux côtés du chemin et de passer au milieu. Et finalement Abraham s'endort et il y a du feu qui passe au milieu. Hein. Alors il s'agit d'un rite qui est connu, hein, qui est attesté dans des écrits anciens, les tablettes cunéiformes, vous savez, à Marie, hein, on en a aussi une trace dans le livre de Jérémie. Vous avez deux propriétaires de troupeaux, à l'époque la richesse c'est les troupeaux, deux propriétaires qui contractent une alliance, pourquoi ? Parce qu'il y a un seul puits, qu'ils sont voisins, ils ne veulent pas se faire la guerre, ils se disent il faut qu'on se mette d'accord pour le puits, donc on va faire une alliance et nous nous protégeons mutuellement s'il y a des agresseurs, donc on fait une alliance. Alors comment on fait l'alliance ? Eh bien chacun va venir avec un mouton, une brebis, trois volatiles et je ne sais pas quoi, on les coupe en deux, donc on les tue, on les coupe en deux, on met les quartiers à gauche et à droite, hein, une moitié d'un côté et une moitié de l'autre, ça fait une sorte d'allée, et les deux contractants passe au milieu, et le sous-entendu, c'est si l'un des deux est infidèle, c'est-à-dire par exemple il fait une alliance avec un étranger, ou il interdit à l'autre d'avoir accès au puits, eh bien il lui arrivera ce qui est arrivé aux animaux. Voilà. Symboliquement, on passe entre les animaux en disant ben, « je serai à leur place si je suis infidèle ». Donc c'est extrêmement fort. Hein. C'est un rite qui met en jeu la vie et la mort. Il y a du sang. Hein. Dans un rite d'alliance, il y a du sang dans la Bible. Parce que c'est la vie qui est engagée, de la manière la plus sérieuse. Hein. L'alliance doit être irrévocable. Hein, entre deux propriétaires de troupeaux, eh bien, c'est une alliance à la vie et à la mort, comme on dit. Hein. D'ailleurs, en hébreu, on va garder cette idée, hein, conclure une alliance, quand on conclut une alliance, on dit on tranche une alliance. On tranche une alliance. Aujourd'hui, on va dire les accords internationaux entre, je sais pas quoi, Liechtenstein et le Luxembourg, par exemple, un événement très très important, hein, eh bien, ils vont faire une alliance. Ben, dans la Bible, on va dire trancher une alliance. Hein, c'est le souvenir de ce rite un peu étonnant, et qui en fait est très parlant. Hein. Eh bien, qui passe entre les animaux dans le récit qu'on vient de lire? Pardon? Eh bien, Dieu lui-même. Hein. Abraham plonge dans un sommeil profond, c'est Dieu qui met Abraham dans un sommeil profond, et c'est un brasier qui passe entre les quartiers d'animaux. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui non seulement prend l'engagement, mais prend aussi sur lui les conséquences d'une infidélité. Vous voyez comment il y a une sorte de préfiguration de ce que sera l'incarnation, où le Christ lui-même prendra sur lui les conséquences de l'infidélité de l'homme. Où l'homme, finalement, est plongé dans un sommeil. Vous voyez ? D'ailleurs, le terme hébreu est intéressant. Hein, le sommeil, c'est la torpeur. Alors, ici, je sais qu'il y a des médecins. Il y a au moins une médecin ici, et puis une là, et peut-être d'autres. Alors, un ami médecin m'avait expliqué qu'il y a plusieurs degrés dans le sommeil. Il disait déjà, si tu éteins les lumières, c'est bien. Si tu t'allonges, puis ensuite, si les yeux se ferment, puis c'est la conscience, voilà. Et le plus profond, c'est quand, je pense, la conscience est lâche, complètement prise. Enfin, voilà. C'est très rare, ces moments-là. On est très heureux de l'avoir. Voilà. Ben, c'est ce sommeil le plus profond. C'est ce sommeil le plus profond. Tardément. C'est la torpeur. C'est le... voilà. Hein. Le terme est tout à fait choisi. On le retrouve à un autre moment dans la Bible, à propos d'Adam. Au moment où le Seigneur a façonné Ève, parce que Adam n'est pas témoin de la création d'Ève, de même qu'Ève n'est pas témoin de la création d'Adam. Ça n'appartient qu'à Dieu, le mystère de l'homme et de la femme. Ça n'appartient qu'à Dieu, le vis-à-vis de l'homme et de la femme, ça n'appartient qu'à Dieu. Adam a été plongé dans un sommeil. Et bien de la même manière, Abraham est plongé dans un sommeil qui est le sommeil de l'acte créateur. Cette alliance est aussi solide que la création. Le tardéma, en hébreu, tardéma, le sommeil, quand Dieu fait alliance avec Abraham, il s'engage comme il s'est engagé dans la création. Il y a quelque chose d'extrêmement fort. C'est véritablement le Seigneur qui donne à cette alliance sa solidité. Dieu renouvelle donc sa promesse en la confirmant dans ses deux dimensions, celle de la descendance. Oui, je t'ai dit que je te donnerai une descendance. Et aussi un pays. Voilà, un pays qui sera très étendu. Mais le Seigneur ajoute que pour obtenir le pays, il faudra qu'il y ait 4 générations. Donc la possession de la terre dépend d'abord de la descendance, de la naissance des enfants. Donc pour Abraham, la première réalisation de la promesse, avant que ce soit la terre, ce sera d'abord les générations. C'est la question de la stérilité de Sarah qui va revenir. Hein. Et ça nous rappelle aussi que Abraham, qui est un nomade, hein, restera, toute sa vie restera un nomade, dans l'attente de la pleine réalisation de la promesse. Hein. Et je vous renvoie encore une fois, comme je l'avais fait déjà, la dernière fois, que je le ferai souvent, au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, hein, la réalisation de la promesse viendra parce que Abraham a accepté d'être un nomade. André Wénin qui écrit « Voilà qui installe définitivement celui-ci dans le provisoire et fait passer dès lors la thématique du pays au second plan. Voilà. » Ce que Abraham verra, ce sera le début de l'accomplissement de la promesse d'une descendance par la naissance d'un enfant. Le pays, on sait que c'est pour plus tard. L'enfant, ça va être pour maintenant, mais de quelle manière? En tout cas, le Seigneur lui garantit l'héritier sera bien issu de son sang. Alors, j'en arrive au chapitre 16, qui est, j'ai mis une foi à purifier, une foi à purifier. Hein. Les deux chapitres phares, c'est le chapitre 15 et le chapitre 17, mais entre les deux, on a l'impression que le Seigneur se retire et dit, voilà, je t'ai fait cette promesse, elle est solide, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Abraham a compris, il y aura un enfant. Donc, comment ça va se passer? Et apparemment, il y a le début de la réalisation de la promesse avec la naissance d'Ismaël. Alors, Sarai, on voit réapparaître Sarai. Il n'a pas été beaucoup question. La femme d'Abraham, hein, elle souffre de la stérilité. Et on peut comprendre combien cela pour elle est douloureux. Et c'est comme c'est profond et que le Seigneur a fait des promesses, eh bien, elle attribue la cause de la stérilité à Dieu. Hein. Le Seigneur n'a pas permis que j'enfante. Ça, c'est connu quand il y a une difficulté. Quand on a une difficulté, on repense. Et ça, je pense que ça vaut aussi à l'intérieur des couples. Hein, quand le garçon revient avec un 3 sur 20 en mathématiques, t'as vu ton fils? Franchement, voilà. Mais s'il était revenu avec un 18 en philo, je suis assez fier de notre enfant ou bien de mon enfant. Hein, voilà, ça, c'est un grand classique. Hein, c'est ce qui se passe entre l'homme et Dieu. Voilà. Hein, le Seigneur n'a pas permis que j'enfante. Voilà. Sarai prend en main la situation et elle fait ce qui existait dans l'Antiquité, cette pratique qui est attestée dans l'Antiquité. Elle jette la servante dans les bras de son mari, Agar, pour qu'elle donne naissance à un enfant. Hein? En Mésopotamie, un père pouvait adopter comme son fils un enfant qu'il avait eu avec une servante, parce que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Hein? En réponse à la suggestion de Sarai, Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de Sarai. Là aussi, c'est intéressant, c'est une évocation de l'histoire d'Adam. Hein, nouvelle évocation de l'histoire d'Adam. Adam écouta la voix de sa femme. Et vous vous souvenez à quel moment il écouta la voix de sa femme? Il mangeait la pomme. Voilà. C'est-à-dire, en gros, on se débrouille entre nous. Seigneur, t'as pas permis, et moi je te dis qu'on peut très bien. Vous voyez la tentation qu'il y a derrière. Hein? Le Seigneur a dit on aura un enfant. Hein? Franchement, il ne lui a pas donné d'enfant. On prend les choses en main. On va se débrouiller. Ah, tu prends la servante et voilà. Alors on va dire, c'est quand même pas Abraham qui est le fautif. Hein? C'est sa femme qui a pris l'initiative. Là aussi, les vieux débats, l'homme, la femme, etc. En réalité, eh bien, Abraham est comme Adam. Hein? Il est un peu lourd. Il n'a pas réagi et il n'est pas moins coupable que sa femme parce que ce n'est pas ce que le Seigneur avait demandé. Abraham semble oublier la promesse que Dieu lui avait faite. Comme Adam, qui avait entendu la parole de Dieu, semble oublier la parole que le Seigneur lui avait donnée. Une parole à laquelle Abraham a cru, mais qu'il a l'air d'oublier. Et de fait, il pense que la promesse est réalisée. Le nom d'Ismaël, ça veut dire Dieu a entendu. Hein. Vous retrouvez Ismaël. Hein, en arabe, on retrouve Shema, Sama. Voilà. Voilà. Hein, Shema Israël, Shama. Hein. Écoutez, le Seigneur a entendu. Mais le problème, c'est quoi?
Il s'est trompé de femme.
Pardon?
Il s'est trompé de femme,
c'est exactement ça. Le Seigneur a dit que ce serait Abraham et Sarah qui auraient un enfant. Là, c'est Abraham et Agar. C'est le couple qui va avoir un enfant. Abraham s'est laissé entraîner à des calculs humains qui ne correspondent pas à ce que Dieu avait prévu. Et ce n'est pas Dieu qui est intervenu, mais la malice de Sarai, relayée par la passivité d'Abraham. Hein? D'ailleurs, aussitôt après, la situation se détériore, hein, comme dans les calculs humains, il y a un déséquilibre et la jalousie reprend le dessus. C'est inévitable, là aussi, c'est l'histoire de l'humanité telle qu'elle est. Hein. Sarai, alors ça c'est extraordinaire, il faut prendre le récit dans le détail, on n'a pas le temps maintenant, faites-le chez vous. C'est pas la peine de s'y attarder parce que ce serait du mauvais esprit, mais c'est tellement réaliste. Hein. C'est tellement la réalité. Et Sarai, qui dit à Abraham, t'as vu l'enfant là, puis cette femme avec laquelle t'as été. Abraham était, attends, c'est toi qui m'as dit, hein, oui, mais n'empêche que t'as bien accepté, hein, t'as pas réagi. Vous savez, les trucs où chaque fois on retient le petit détail qui n'est pas faux, mais qui est quand même, c'est que c'est partagé, hein, on fait retomber sur l'autre. Hein. Sarai rend Abraham responsable de la situation dont elle est pourtant à l'origine, et Abraham, lui, il se défausse. Hein, comme Adam d'ailleurs qui a fichu le camp comme tout autant que Ève après le péché, hein. Et donc ça se termine par Sarai qui fait chasser Agar, et on devine la pauvre femme, hein, une esclave comme ça qui a fait ce que peut-être qu'elle n'était pas si heureuse que ça, et elle se fait chasser. Voilà, on n'en sait rien, mais en tout cas elle se retrouve comme ça dans le désert, hein. Alors ça, il y a quelque chose de très très beau, on voit comment le Seigneur conduit les événements, hein, tout en laissant cette liberté d'Abraham. C'est que, oui, bah oui, le mal s'est fait et la pauvre Agar se retrouve toute seule. Ce n'est pas le Seigneur qui a envoyé Agar au désert, hein, c'est Sarai, hein, mais au contraire, le Seigneur va faire revenir Agar chez ses maîtres, hein, et Dieu va lui donner une place. Hein, et il y aura une descendance, hein, si nombreuse qu'on ne pourra la dénombrer. Hein, ça fait penser à la promesse faite à Abraham. Agar va trouver une place. Ismaël va trouver une place. Vous savez que, c'est une petite parenthèse très intéressante, c'est que quand l'islam est apparu, les juifs disaient, mais toi, vous êtes de toute façon, vous n'êtes pas dans la promesse, hein, vous êtes en dehors du peuple de l'Alliance. Alors ça a fait beaucoup réfléchir à Mahomet ou les premiers, et puis finalement ils sont revenus en disant, vous avez dit qu'on n'est pas, c'est pas la promesse, que c'est Isaac qui est le peuple élu, mais Ismaël c'était quand même le fils aîné et il a eu aussi une bénédiction de la part de Dieu. Donc Ismaël a une place. Hein. Et il y a tout un développement qu'on retrouve dans l'islam. Hein, là, il faudrait aller demander en ce moment à Olaf, hein, qui en parle très très bien. Il y a un livre très très beau, hein, du père Michel Hayek, qui est un Libanais, hein, qui est un grand spécialiste. Je ne sais pas si certains ont entendu parler du père Michel Hayek, hein, sur l'islam, le monde arabe et l'islam. C'est un théologien absolument extraordinaire et il développe toute cette thématique à partir de Genèse 16. Comment Ismaël a eu une place, mais une place paradoxale, douloureuse. Hein, douloureuse. C'est la douleur de l'islam qui crie, qui dit nous voulons avoir une place, nous existons. Hein, alors ce qui pour nous est insupportable, évidemment, on dit mais il nous casse les pieds. Mais c'est Ismaël, hein, qui s'est retrouvé au désert. Hein. Voilà, on le verra au chapitre 21. Hein, tout ça, ce sera au chapitre 21. Voilà, ce qui est certain, c'est que Abraham et Sarah apprennent que croire, c'est accepter de laisser Dieu conduire lui-même les événements. Croire, c'est accepter que Dieu conduise lui-même les événements. Pour nous, aujourd'hui, croire, ça veut dire je crois qu'il y a un Dieu ou je crois qu'il n'y en a pas. C'est parfaitement abstrait et c'est vide. Croire dans la Bible et croire pour Abraham, c'est permettre au Seigneur de conduire lui-même les événements, lui faire confiance jusqu'au bout. Alors, voilà Abraham remis un peu dans cette... après cet épisode douloureux, hein, il est remis devant le Seigneur, il dit, bon, maintenant il faut franchir une étape supplémentaire, maintenant que tu as compris cette leçon. Et nous arrivons au chapitre 17. Cette période va couvrir une année, hein, depuis la fin du chapitre 16, hein, avec la maternité d'Agar, jusqu'au chapitre 21, hein. Ça dure une année et c'est une période qui, dans la vie d'Abraham, va être tout à fait fondamentale, particulièrement avec ce que nous allons voir au chapitre 17. Le Seigneur va donc faire franchir à Abraham une nouvelle étape. Il lui déclare « J'établis mon alliance entre moi et toi, je t'accroîtrai extrêmement ». Alors, on se souvient qu'au chapitre 15, le Seigneur avait renouvelé sa promesse et établi une alliance avec Abraham. Hein, on le sait bien, il y a eu cette promesse et on peut dire que l'alliance est comme une sorte de sceau, de gage certain pour Abraham. Une alliance solide, comme nous l'avons vu. Mais c'était une alliance unilatérale. Évidemment, on dit c'est formidable, c'est Dieu lui-même qui s'engage, c'est lui qui va prendre les conséquences de l'infidélité. Donc c'est ce qu'il y a de plus grand. Eh bien, en fait, non. Parce que quand le Seigneur fait alliance, il n'y a pas que son initiative il y a la réponse qu'il attend de l'homme. Et c'est ça qui rend gloire à Dieu, c'est quand l'homme est capable de répondre. Et là, le Seigneur va en dire un peu plus à Abraham en lui demandant « Marche en ma présence et sois parfait. Marche en ma présence et sois parfait. » Si vous voulez suivre l'histoire d'Abraham, souvenez-vous de Genèse 12, « Pars, quitte ton pays », comme je vous ai dit, le départ, c'est le point de c'est la base de la spiritualité d'Abraham. Mais ensuite, ce sera cette parole du Seigneur qui va être décisive pour Abraham, pour le destin d'Abraham. « Marche en ma présence et sois parfait ». Ça veut dire « Sois partie prenante de l'alliance que je veux établir avec toi. Marcher dans la présence du Seigneur. » Ça va définir vraiment l'être d'Abraham, là, sa place devant Dieu. Et ça marquera toute la spiritualité de l'Ancien Testament, jusqu'au prophète Michée. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Que tu marches humblement avec ton Dieu. Et le Seigneur ajoute, comme s'il précisait un peu cet appel « marche en ma présence », tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Alors que stipule cette alliance? Eh bien, le Seigneur déclare à Abraham, j'établis une alliance éternelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance avec toi, après toi. Voilà, être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je serai ton Dieu, qui va être vraiment la caractéristique de l'alliance. Et on la retrouvera fréquemment, cette formule qu'on peut appeler la formule de l'alliance. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Je serai votre Dieu et comme vous êtes en mesure de répondre, eh bien vous serez mon peuple. Il y a donc un lien indéfectible, on l'a vu au chapitre 15, mais un lien indéfectible d'appartenance mutuelle. Le Seigneur se révélera comme le Dieu d'Abraham. Abraham n'ira pas chercher d'autres dieux. Et puis si on revient sur le chapitre 16, il n'ira pas chercher des assurances humaines. Il a vu que ça ne conduisait à rien de très solide. Mais il y a cette appartenance désormais, le Dieu d'Abraham, et Abraham lui-même va marcher avec son Dieu. Je fais une parenthèse importante, parce que quand on aborde la question d'Abraham, on dit, c'est bien, on va parler du monothéisme biblique. Vous êtes d'accord? Vous avez entendu parler du monothéisme. On dit qu'on est une religion monothéiste. Et Abraham, c'est par excellence le monothéisme, celui qui a cru au Dieu unique. Alors, une bonne fois pour toutes, le terme de monothéisme n'est pas biblique. C'est même pas un terme théologique. Et c'est pas ça qui nous intéresse. Si on veut employer ce langage qui est davantage celui qui est légitime, qui est celui des historiens ou des... Alors on pourra l'utiliser aussi en exégèse si on veut. On ne parle pas encore de monothéisme. Monothéisme, ça veut dire il n'y a qu'un seul Dieu et les autres n'existent pas. Il n'y a pas d'autre Dieu en fait. Ça, c'est l'expérience que Israël va faire quand il sera déporté à Babylone au VIe siècle. Il découvre que les dieux des nations, c'est du vent. Ils n'ont pas d'existence. Ils disent bon sang, mais les autres dieux, en fait, ils n'existent pas. Voilà. Donc finalement, il n'y a que le nôtre qui est vivant et qui est vrai. Donc c'est très bien. Et là, on va passer en effet à ce qu'on peut appeler le monothéisme. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle dans le langage technique l'énothéisme. Éno, de haine en hébreu, en grec. Israël est un peuple qui n'adore que un dieu, sans dire que les autres dieux n'existent pas. Vous avez vos dieux. D'ailleurs, il y a des textes dans la Bible où on a un peu l'impression que c'est le cas. Voilà, nous, on a un seul Dieu. Les Égyptiens ont plusieurs dieux, les Grecs ont plusieurs dieux. Nous, on a un seul. On appelle ça l'énothéisme. Vous voyez la différence. Mais en réalité, pourquoi je vous dis que c'est une parenthèse que je fais et qu'il ne faut pas s'y attarder, c'est que c'est une mauvaise piste. Le problème pour Abraham, c'est pas d'arriver à la conclusion assez abstraite de dire « il y a un seul Dieu ». J'allais dire, ça nous avance bien. Bon, on sait qu'il y a un seul Dieu, d'accord. Mais ben, c'est bien, il y a un seul Dieu. Maintenant, on va le laisser au ciel. C'est ce qu'on a fait en France à l'époque du rationalisme, d'accord. Voltaire était tout à fait d'accord pour dire qu'il y avait un seul Dieu. Il n'était pas athée, on peut dire. Hein, mais que Dieu reste là où il est. Hein, nous faisons nos affaires tout seuls. Donc la question d'Abraham, c'est précisément de dire qu'il y a une alliance. Et qu'il s'agit pour l'homme de trouver ce chemin vers Dieu, de marcher avec Dieu. C'est ça, la grande question d'Abraham, c'est l'alliance, c'est la promesse que le Seigneur accomplira sa parole et donnera une bénédiction. C'est la thématique de la promesse et de l'alliance, l'appel, la promesse et l'alliance, c'est ça qui est central, hein, et non pas uniquement une question de monothéisme. Voilà, je déborde un petit peu, mais on a commencé avec un quart d'heure de retard. Voilà, une transformation pour Abraham et Sarai. L'histoire d'Abraham va prendre un nouveau départ. Il y a une alliance qui est solide et définitive, mais dans laquelle Abraham et Sarai aussi auront part et pourront répondre. Alors, il y aura deux signes de cette nouveauté. D'abord, le changement de nom. Dans la Bible, un nom, ça veut dire un statut, hein, une mission. Le nom est porteur d'un statut et d'une mission. Hein, Adam, c'était le terreux. Hein, Ève, la vivante. Hein, son nom lui est donné parce qu'elle va mettre au monde des enfants, la mère des vivants. Hein. Eh bien, Abraham, qui veut dire le père élevé, va recevoir désormais le nom de Abraham, le père d'une multitude. Comme nous dit le texte de la Genèse, tu seras le père d'une multitude. Le père élevé, celui qui domine, désormais va être au niveau de cette multitude à laquelle il va donner naissance. Et puis Sarah, alors Sarah, c'est aussi une belle histoire, son nom est tout à fait évocateur. Hein. Sarai, ça signifie « mes princes ». Hein. Quand il y a une petite fille que je vois qui s'appelle Sarah, elle ne connaît pas toujours l'origine de son nom. Je lui dis « tu sais ce que ça veut dire, Sarah ?» Ben, je ne sais pas, voilà, ça veut dire « princesse ». Oh, je suis toujours très content de savoir, je me suis rendu compte que ça marchait bien. Hein, le thème de la princesse, ça marche bien. Dans les baptêmes, hein, quand on parle de la royauté, il y avait princesse, en général, on préfère princesse. Et oui, on préfère princesse. Voilà, hein, voilà. Donc c'est très joli parce que princesse, ça veut dire le rêve du prince charmant. Je pense que c'est ça. Hein. Eh bien, la pauvre Sarai, c'est pas aussi joli que ça. Hein. Ça veut dire en fait « mes princes ». Sarai, c'est « mes princes ». Ça veut dire qu'elle appartient au prince, au chef de la famille de Terah, de la famille d'Abraham, mais elle ne s'appartient pas, elle n'est pas reconnue pour elle-même. Hein. Et précisément, elle ne s'appelle plus Sarai, mais elle s'appelle Sarah. Donc elle devient elle-même cette princesse. Elle n'est plus celle qui se définit par rapport aux autres. Vous vous souvenez au début quand je disais il y a Terah, tout se définit par rapport à lui. Désormais, Sarah advient, j'allais dire, dans son unicité, hein, dans sa splendeur, la splendeur d'une princesse qui est reconnue pour elle-même. Hein, princesse, elle sera mère de roi et prince. Hein, c'est ça la promesse qui est faite à Sarah. Hein, tu seras la mère de roi et de prince. Désormais, ce n'est plus toi qui seras relatif aux autres, ce sont les autres qui se recevront de toi et tu auras pleinement ta place. Donc c'est aussi la promesse que le Seigneur va réaliser ce qu'il a dit, hein, la descendance. Le deuxième signe que le Seigneur donne à Abraham, ça va être la circoncision, hein, évidemment quelque chose qui est marquant pour marquer le judaïsme. Hein, il faut bien se rendre compte que d'un point de vue historique, si la pratique semble assez ancienne, c'est surtout au retour d'exil, quand Israël est confronté aux autres nations, qu'on va voir le sacerdoce de Jérusalem disant « attention, c'est très important, il faut pratiquer ce rite comme marque d'appartenance au peuple hein. ». Mais dans l'histoire d'Abraham, le Seigneur va le donner comme un signe de la... Que son alliance va marquer Abraham, hein, jusque dans sa chair. Hein. C'est-à-dire, l'alliance va prendre corps. Hein, il y a un très beau texte d'Origène que je vous avais mis au départ. Vous savez, je vous mets souvent les pères de l'Église. Bon, puis j'ai changé pour un autre texte. Mais Origène fait le lien entre la circoncision et l'incarnation, c'est-à-dire en quoi la parole de Dieu se grave dans notre humanité de la manière la plus concrète. Hein. Elle nous marque. Alors, bien sûr, en plus, le lieu de la transmission de la vie chez l'homme, qui pour l'homme était le lieu de la convoitise, eh bien, il y a cette idée que désormais, le lieu de la transmission de la vie est marqué par cette parole de Dieu, hein, par cet appel de Dieu. Hein. C'est un signe pour la descendance d'Abraham, pas simplement pour Abraham, mais pour sa descendance, puisqu'il doit circoncire aussi ses fils et que ce sera de génération en génération. Hein. Ça veut dire que tous ceux qui auront ce signe auront la responsabilité de pratiquer la Torah. Hein. Celui qui reçoit la circoncision a la responsabilité de pratiquer la Torah. C'est-à-dire qu'il est marqué dans sa chair pour accomplir. Hein. C'est cette thématique de la réponse. Je vous ai dit, il y a ce que Dieu donne, ce que Dieu fait de façon unilatérale. Désormais, l'homme est capable de répondre. Marche avec Dieu, observe l'alliance. Hein. Et on peut dire que toute la loi de Moïse va être comme le développement de cette alliance du chapitre 17 où Abraham, qui est marqué dans sa chair, est capable de répondre, est appelé à répondre. À tel point que celui qui n'est pas circoncis n'a pas le droit, par exemple, de pratiquer les rites d'Israël, hein, la Torah. Hein. Voilà. Alors, on dit aujourd'hui, la tradition juive, on dit, ben évidemment, il n'y a que la moitié de l'humanité qui est marquée par ce signe. Hein, c'est pour ça que les hommes, dans le judaïsme, on les voit avec les vêtements, avec le tzitzit, avec toutes les prières qu'ils font dans la journée. Hein, et leur travail, c'est de mettre en pratique les commandements. Hein, là, on dit, le rôle de la femme hein, va être davantage lié à la question de la maternité, avec la figure de Sarah, hein, qui est la mère. Hein, dans le judaïsme, ça reste très fort. Hein. C'est sûr que le christianisme va un peu changer la donne hein, en disant désormais, hein, dans le Christ, vous ne faites plus qu'un hein, et il y aura un rapport un peu différent à la manière de pratiquer la loi. Hein. Mais c'est intéressant de voir comment le peuple juif est porteur hein, de cette mémoire hein, par laquelle Dieu a montré sa fidélité. Voilà. Dernier point qui est comme une ouverture, hein, celle que le Seigneur a permise. La conséquence pour Abraham, ça va être la réalisation de la promesse de fécondité. Hein. On se souvient que Abraham y avait cru, mais au chapitre 15, mais il a eu du mal quand même à croire jusqu'au bout. Hein. Abraham et Sarah s'étaient arrangés eux-mêmes. Cette fois-ci, Abraham ne va pas réessayer la même chose. Hein. Il sait que Sarah va enfanter. C'est bien d'elle que naîtra l'enfant promis. Et ça, nous le verrons la prochaine fois. Et de quelle manière ça va se passer. Hein. En réaction à cette annonce que Dieu lui fait, c'est plus simplement la promesse, c'est le fait que la promesse va désormais va se réaliser, eh bien Abraham rit. Il rit dans sa barbe. Hein, on imagine le vieillard avec sa barbe et il rit dans sa barbe. Hein. Alors c'est intéressant le rire d'Abraham. Son rire n'exprime aucun scepticisme. Pour nous, le rire, évidemment, surtout dans une situation comme ça, c'est je rigole parce que franchement, tu me dis ça, Seigneur, mais t'as vu, c'est pas possible. Hein. On voit bien que là, chez Abraham, ça va être davantage de la stupeur, hein, celle qu'éprouve un homme devant un événement trop inouï pour lui. On a parlé des étoiles tout à l'heure. Hein. Est-ce que ma descendance peut être aussi nombreuse que les étoiles? Ma femme est stérile, je suis vieux. Eh bien, Abraham voit que ça va se réaliser. Et là, le rire. D'ailleurs, c'est intéressant de réfléchir sur pourquoi rions-nous. Il y a une sorte de quelque chose qui nous échappe, quelque chose, sorte de débordement. Il y a un débordement. Et le Seigneur a bien compris que Abraham est comme saisi de stupeur devant cette promesse qui va se réaliser. Et le Seigneur reprend le rire d'Abraham en disant « Ton fils, tu l'appelleras Isaac », ce qui veut dire « il rit », comme on dit en arabe. Itzak, voilà, c'est ça, Itzak. Hein. Ça veut dire, il rit. Hein. Isaac, c'est le rire. Hein. C'est le rire c'est le rire d'Abraham. Mais je pense qu'on peut dire aussi que c'est le rire de Dieu. Hein. Le rire de Dieu devant l'étroitesse des hommes, devant l'incrédulité des hommes. Alors, j'ai mis quelques références dans les psaumes, de Dieu qui rit de l'incrédulité des hommes. Hein. Alors, bien sûr, Abraham, lui, a cru. Il n'est pas incrédule. Mais on verra comment saint Paul va reprendre un de ces psaumes qui parle du rire de Dieu dans l'incrédulité des hommes pour dire que finalement, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes et la sagesse des hommes une folie pour Dieu. Et avec Abraham, eh bien, nous découvrons la sagesse de Dieu. Voilà. Alors je m'arrête là. On voit comment, à travers tout cet itinéraire que je retrace très rapidement dans la conclusion, eh bien, par la foi, l'inouï de Dieu va pouvoir entrer dans notre histoire. Voilà. Alors, pardonnez-moi d'avoir débordé, mais on a commencé à écart, je n'ai mis que 52 minutes. Donc, c'est 57. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui.
Vous n'avez pas parlé de l'épisode où il est en Égypte et il fait passer sa femme
pour... Non. Non, alors c'est, j'aime bien, ça fait partie de ces chapitres qui n'ont pas la même place que les chapitres 15 et 17, vous l'avez compris, les deux niveaux de l'Alliance. C'est un moment où Abraham a peur. Il a peur qu'on lui prenne sa femme, il a peur surtout pour lui-même. C'est très intéressant parce que c'est par rapport à lui-même. Il essaye de se protéger. Et donc, comme il a peur pour lui-même, eh bien, il va s'organiser une sorte de cinéma qui fonctionne pas, parce que Pharaon va s'en rendre compte, et ça va se retourner contre tout le monde. Donc, ça fait partie de cette pédagogie que j'aurais pu prendre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais pu détailler toutes les étapes, et c'est une étape importante pour Abraham, de se dire que ce n'est pas en faisant ces petits calculs qu'il arrivera à s'enrichir et à vivre normalement. Voilà. C'est bon ? On va terminer. La prochaine fois, on essaiera de commencer vraiment à 21h. Ça laissera plus le temps à la fin de s'il y a des questions. Et je vous rappelle que d'une fois sur l'autre, si vous avez, en relisant le cours, en relisant la Bible, vous voyez qu'il y a des questions qui demeurent, vous les posez au début de la séance prochaine. C'est la meilleure manière de faire. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Et bonne lecture de la Bible, chapitres 18 et 19.
Il n'est pas passé de notre côté, ce papier.
Oui.